Or vous, Christophe Deloire, au contraire, vous avez dû trouver que je n'étais pas allée assez loin, parce que quand on lit votre ouvrage « Histoire secrète des détectives privés » chez Lattès, en fait, on plonge dans un univers encore plus, beaucoup plus dur, beaucoup plus noir, avec beaucoup de corruption, avec des affaires louches, avec le pouvoir qui se sert des détectives et qui les utilise. Donc en fait, je pense que vous avez une vue du métier beaucoup plus dure que ce qu'on a pu montrer jusqu'à présent.
Je pense que le métier par nature est dur, parce que quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, il viendra l'idée de personne d'aller chercher un détective privé. Quand on va le chercher, c'est soit que dans son entreprise, on a des vols, des choses délicates à gérer, soit que dans sa vie privée, on a aussi des problèmes qu'on croit en avoir. Et donc, on vient toujours chercher le détective dans un état de fragilité. Et les détectives ont affaire à la face un peu noire de la société. Qu'il s'agisse d'affaires commerciales, qu'il s'agisse d'affaires de mœurs, quels que soient les domaines, là où les détectives mettent les yeux, c'est rarement du tout beau, tout joli. Donc évidemment, du point de vue psychologique, je pense que c'est un métier assez dur, enfin, qui durcit les hommes et les femmes, puisque des femmes sont détectives maintenant.
Oui, alors on a fini un petit peu sur un témoignage assez dur. Alors je peux le dire, vous n'étiez pas là parce que vous n'êtes pas habitué des filatures longues. Vous êtes tous partis aux toilettes et vous m'avez abandonné. Et donc,
on va tout savoir.
Il y avait un témoignage donc de ce détective qui disait je rapporte à mon client la photo de l'amant de sa femme et dans la nuit, il le descend de 6 balles dans la peau. La mort est toujours autour des détectives, plus ou moins. Et alors, il y a l'autre aspect, il y a aussi les détectives qu'on retrouve morts. Et là, je pense très directement aux frères Saint-Snet. C'est une histoire sur laquelle vous avez travaillé.
Alors, eux n'étaient pas à proprement parler des détectives. L'un des deux était vacataire au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils avaient travaillé un peu sur des affaires politiques, mais ils étaient aussi un peu mythomanes. Enfin, d'ailleurs, la difficulté, c'était de faire la part entre ce qui appartenait à leur mythomanie et ce qu'ils avaient réellement fait pour le conseil régional. Ils ont été retrouvés, l'un et l'autre, assis dans leur voiture, dans un garage d'une villa de Tourtour en 94. D'aucuns ont considéré que leur mort était très mystérieuse, qu'elle était liée à des affaires politiques de la région. Ça n'a pas été démontré. Il y a un certain nombre de perceptions autour de l'affaire qui sont un peu étranges. Enfin, on a retrouvé juste devant la porte du garage une bouteille d'éther. Les gendarmes ont dit que c'était pour... ils s'en servaient pour enlever l'éthique des chiens. Enfin, je ne sais pas, mais les détectives, en fait, se retrouvent toujours... Vous disiez que la mort rôde autour d'eux. C'est parce qu'ils travaillent souvent sur des affaires qui touchent à la patte humaine et qui font que, par leur rapport, lorsqu'ils apprennent la vérité, et la vérité souvent est difficile à des clients, évidemment, certains clients peuvent solder les comptes à coups de barbiturique ou de revolver. Il y a un risque, mais au fond, c'est le même risque pour un avocat dans certaines affaires, sauf que le détective lui apporte les faits et que, d'une certaine manière, c'est encore plus dur.
Alors, ce que vous apportez aussi, moi, ce que j'ai découvert, c'est le lien monde politique et détective, au fond. On peut parler de Mitterrand, par exemple, on peut parler du cabinet Kroll, je ne sais pas.
Les États... depuis longtemps, ont toujours eu intérêt à avoir des enquêteurs à leur solde. Alors, sous Mitterrand, il y a eu plusieurs affaires, notamment des écoutes au Conseil supérieur de la magistrature ou des pressions exercées sur l'écrivain Jean Edernallier qui étaient faites par des officines privées. Alors, d'ailleurs, c'est pas nécessairement la faute de l'ensemble. Là, je suis pas en train d'accuser du tout une corporation.
Non, non.
Et d'une certaine manière, au contraire, je pense que la corporation des détectives privés souffre de la volonté souvent de l'État, de les tenir en état de fragilité avec des talons d'Achille. Il y a eu très peu de textes législatifs sur les détectives privés. C'est une profession qui, jusqu'à récemment, a toujours été très peu réglementée. D'une certaine manière, moi j'estime, enfin je ne sais pas si messieurs Conversano et Bornich sont d'accord avec ça, mais que jamais le législateur s'est intéressé à ça, parce qu'au fond ça arrange tout le monde, que les détectives, enfin tout le monde, d'une certaine manière,
ceux
dans l'appareil
d'État, intérêts, oui.
que les détectives soient plutôt dans un état de fragilité. Ça permet qu'ils évitent de faire des enquêtes gênantes, ou s'ils les font, ça permet de pouvoir leur dire un peu plus facilement qu'il serait préférable pour eux d'arrêter, que sinon ils encourent quelques risques. C'est une profession où on est souvent sur la corde raide, où les détectives, au fond, n'ont pas plus de droits pour enquêter que vous ou moi.
Ce qui provoque beaucoup de dérapages, du coup, probablement.
Qui provoque des dérapages, qui fait que la profession non réglementée, où tout le monde, jusqu'à présent, pouvait devenir détective privé en allant du jour au lendemain s'inscrire en préfecture, sauf à avoir un casier judiciaire chargé, mais il suffisait d'aller s'inscrire et le lendemain on pouvait apposer une enseigne devant son bureau en détective privé. Ça fait que la profession a eu du mal, mais elle n'en avait pas les moyens, à s'épurer. Et peut-être qu'avec les nouveaux textes, ça lui sera plus facile. Dorénavant, bientôt des décrets d'application de la loi Sarkozy sur la sécurité devrait instituer des diplômes requis pour les détectives privés. Enfin, on est plutôt sur la voie d'une normalisation du métier, sans doute d'une banalisation, mais ça me semble largement préférable pour les détectives privés eux-mêmes et pour les citoyens qui subissent les enquêtes des détectives privés.
Alors, pour en terminer avec ce pan d'histoire et avant d'entendre messieurs Conversano et Borniche, j'ai eu l'impression en lisant votre livre que quand même la formation des détectives jusqu'à présent, c'était plutôt en gros l'Afrique ou le sac.
Non, là, vous faites référence à une histoire un peu plus ancienne quand même. Non, la formation, c'est un, comme le disait Robert Torino, c'est souvent le terrain. Moi, j'ai eu le sentiment, en fréquentant un peu les cabinets des détectives, qu'un certain nombre manquait de culture juridique. Les deux institutions de formation de messieurs Borniche et Conversano, ben, on le mérite pour la première fois d'apporter une formation de fond. Torino leur reprochait de ne pas assez privilégier la formation de terrain. Sans doute, elle est essentielle, mais en même temps, comment peut-on respecter la loi quand on ne la connaît pas? Et je pense que ces formations ont ce mérite-là.
Alors cette loi, cette fameuse loi qui est enfin arrivée, Christian Borniche, vous l'appeliez de vos voeux.
Depuis fort longtemps, mais tout le monde l'appelait de ses voeux.
Mais déjà la première loi qui datait de Pétain.
La première loi datait de Pétain, en fait, elle n'avait pas pour objet de réglementer la profession, mais simplement d'interdire l'accès de la profession aux Juifs, par une disposition de l'article 1er qui disait que pour devenir directeur d'agence, il ne fallait pas être juif, et une seconde disposition concernait les anciens fonctionnaires de police qui nécessitait une autorisation administrative donc du ministère de l'Intérieur pour pouvoir exercer, autorisation qui n'était évidemment pas donnée aux anciens fonctionnaires de police juifs démissionnés d'office de l'administration. Donc la loi du 28 septembre 1942 a fonctionné de façon un peu bancale jusqu'en début de l'année 1977. 35 ans après, le décret d'application a été promulgué. Et là, il a commencé à y avoir un assainissement de la profession puisqu'il y a eu le premier contrôle administratif qui est intervenu. Il y avait des enquêtes des préfets pour vérifier les conditions d'exercice, mais seulement des dirigeants.
Et ensuite, ça, vous l'avez vu, vous avez vu l'action quand
ce décret d'application. Oui, on a été au cœur de l'action.
Vous étiez avec votre père à ce moment-là, vous travailliez avec votre père?
En 77, non, mon père était déjà parti aux États-Unis, il est parti en 75, donc moi je suis entré dans son cabinet en 69, après l'armée, et donc il est parti en 75, le décret est intervenu en 77. Seulement, et c'est mon père effectivement qui m'a incité à l'époque à entrer dans une organisation professionnel qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui, qui s'appelait la Société française des détectives, justement pour essayer d'œuvrer un petit peu en faveur d'un assainissement de la profession.
Et puis après, donc, toujours
en 77, début 77, création d'un contrôle administratif. Fin décembre 77, la profession reconnue libérale par un décret. 1980, une deuxième loi étant les conditions de moralité à l'ensemble du personnel et non plus seulement aux dirigeants. Elle est votée par la droite, la gauche en 81 promulgue le décret d'application. 87, les préfets reçoivent le pouvoir par un autre décret de fermer les agences administrativement en cas d'infraction. Et on arrive en 95, premier projet de loi de Monsieur Debré et Juppé, dissolution, le projet s'en va au placard. Monsieur Chevènement propose un deuxième projet qui a pris du retard, les élections interviennent, le projet est parti aux oubliettes à son tour. Et enfin, Monsieur Sarkozy, c'est pas lui d'ailleurs, c'est la commission des lois de l'Assemblée nationale qui a pris l'initiative de faire une proposition d'amendement pour ajouter une réglementation de la profession, puisque en fait au départ le projet Sarkozy prévoyait de réglementer plus strictement les agences de gardiennage. Et la commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé de déposer un amendement qui a été accepté par le gouvernement et la profession a été réglementée. Donc la loi a été votée le 13 mars et publiée au journal officiel du 18. Voilà.
Alors cette loi, en quoi elle vous apporte satisfaction ? Yves Conversano.
Plusieurs plans. D'abord au niveau de la formation, puisque cette loi rend la formation obligatoire. Elle reconnaît la profession comme étant profession libérale. C'est quelque chose de très important. Et donc après, au niveau du contrôle, je veux dire, il y a un agrément. Je voulais rebondir tout à l'heure, si vous le permettez, sur deux choses. Je voulais dire que la profession détective est une profession qui était interdite dans les pays totalitaires. Et que en France, si cette réglementation n'était pas arrivée rapidement, c'est vrai, comme dit M. Deloire, c'est que peut-être qu'on gêne, c'est-à-dire que la recherche de la vérité est un petit peu gênante pour tout le monde. Et donc, pour revenir à la loi, cette loi nous apporte beaucoup, elle réglemente la profession aujourd'hui. Mais je fais une petite rectification, pardon. Donc cette loi, en fait, en 1994, la première fois où on s'était réunis, où l'ensemble des organisations s'étaient réunies, c'était sous Pasqua, ministre de l'Intérieur à l'époque. Et donc on a vu le premier texte de l'ébauche de la loi qui est arrivée aujourd'hui.
Alors qu'est-ce que vous auriez souhaité de plus ? Par rapport à ce qui vous a été donné là.
Là, les avis peuvent diverger selon les organisations professionnelles.
Et il y en a beaucoup des organisations. Hein.
Oui, il y en a beaucoup.
Vous êtes combien de détectives? Il y a combien d'associations?
2941 agences déclarées, enfin en gros, hein, ça varie, déclarées dans les préfectures. Combien il y a d'organisations professionnelles depuis la guerre? Il doit y en avoir une trentaine, peut-être même une quarantaine. Bon, il n'en reste pas autant aujourd'hui quand même, mais il doit y en avoir, il doit y en avoir, on est 8 chez nous, il doit y en avoir une dizaine chez eux, enfin bon, je peux, ça fait déjà pas mal.
Les deux chefs de meute, là.
Ça fait déjà pas mal.
Donc votre association à vous, qu'est-ce qu'elle aurait aimé de plus, on va dire ? On va simplifier.
D'une façon générale, je crois qu'on peut être satisfait de la loi parce que premièrement, elle apporte effectivement, d'abord elle reconnaît la profession, elle nous donne un statut pour la première fois. Elle confirme le caractère libéral, c'est ce que disait Yves il y a deux secondes, qui avait déjà été reconnu par la jurisprudence et par un texte réglementaire, mais elle le confirme de façon formelle par la voie législative. Nous en sommes très satisfaits. Ensuite, la différence essentielle, c'est que avant, nous étions soumis à une simple déclaration a posteriori, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait créer son agence et se déclarer dans les deux mois qui suivaient, et c'était une simple contravention. Maintenant, pour créer une agence ou pour continuer l'exercice de notre activité, il faut un agrément de l'État qui est délivré par le biais du préfet, et cet agrément est préalable. Donc, et si on exerce sans cette autorisation préfectorale, eh bien c'est un délit et non plus une simple contravention. Deuxièmement, effectivement, il y a l'aptitude professionnelle qui est instituée. Ensuite, il y a des contrôles de moralité qui seront effectués, qui sont très stricts, peut-être même un peu excessifs au regard du droit international. Mais ça, je pense que la Cour de justice des communautés européennes aura son mot à dire sur ce problème, par le biais notamment des questions préjudicielles. Parce que, par exemple, le seul fait d'être inscrit dans un fichier de police, il peut y avoir des erreurs dans un fichier de police. S'il n'y a pas de poursuite pénale, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec cette philosophie. Mais nous verrons si nous nous trompons ou si la justice européenne pense la même chose que nous.
Si tu permets, je pense qu'il y a le mot « éventuellement » inscrit dans des fichiers
plus,
de police qui est un peu gênant, la profession trouve gênant. « Éventuellement inscrit », on voudrait bien savoir ce que veut dire éventuellement inscrit.
Alors, pour en terminer, ce qui serait souhaitable, c'est qu'on a donné des armes pour moraliser la profession, pour la professionnaliser, je crois que c'est le terme qui convient, avec une formation, donc il y aura une aptitude, une qualification professionnelle, des conditions de moralité qui seront draconiennes, peut-être même les plus draconiennes dans le cadre d'une activité privée.
Oui, il faut que vous soyez des anges.
Par contre, on a un petit peu oublié quand même des garanties apportées aux clients. Hein. Par exemple, moi j'aurais bien aimé que nous aurions bien aimé, je ne vais pas parler à titre personnel, je pense que tout le monde aurait bien aimé que le secret professionnel soit expressément confirmé dans la loi et que ne soit pas seulement reconnu par la jurisprudence. La jurisprudence peut toujours évoluer. Je pense également, par exemple, qu'il aurait été souhaitable d'apporter une garantie essentielle aux clients, c'est d'obliger les cabinets à disposer d'un contrat couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Nul n'est à l'abri d'une erreur. On peut commettre une erreur dans l'exercice et cette erreur peut avoir des conséquences fâcheuses pour le client. Il faut que le client puisse se retourner et qu'il ait une garantie de solvabilité de l'agence. Voilà, par exemple, deux choses qui auraient été nécessaires d'introduire dans le texte législatif.
Mais alors, quelle formation va être proposée au détective? Parce qu'au fond, on a bien compris que vous militiez un peu pour le détective qui a un noble but, qui ne fait que des actions légitimes, qui ne franchirait jamais la fameuse... Alors, je ne sais jamais s'il faut dire ligne jaune ou ligne blanche, puisque il y a deux territoires un peu mystérieux. En tout cas, on sait que c'est pour aller vers le gris ou vers le noir. Quelle formation ces détectives vont avoir qui serait quand même plein de vertus, si on vous entend?
Écoutez, les formations professionnelles? Alors, les formations professionnelles, il y a trois grandes possibilités de formation professionnelle. Il y a la formation par correspondance.
Non, c'est le contenu. Hein. On a bien compris qu'il y avait plusieurs formations possibles. Et puis, je suppose que peut-être dans le décret d'application, on aura des précisions là-dessus.
Oui,
mais
oui.
Qu'est-ce que doit apprendre un détective aujourd'hui pour être capable de faire un métier dont on imagine qu'il est sans arrêt aux limites et en même temps dont vous voulez qu'il soit impeccablement correct et présentable en justice?
Mais le contenu, il est déjà appris, que ce soit par la formation de l'IFAR ou par la formation de l'université Panthéon-Assas-Paris 2.
À Melun
de Paris, enfin, c'est l'annexe de Melun qui est chargée du pôle sécurité. C'est déjà dans la formation que l'on dispense, soit à titre privé, soit à titre public, c'est-à-dire la connaissance des textes législatifs qui nous imposent un certain nombre de limites. Je parlais tout à l'heure de l'interdiction du contrôle des salariés à leur insu. Bon, ben, il faut savoir que c'est interdit, que ça ne sert à rien de faire une filature si le rapport ne peut pas être utilisé. Et de façon systématique, la jurisprudence est constante, même si le rapport apporte la preuve et si les filatures apportent la preuve d'une concurrence déloyale et même de vol d'ailleurs, au social, le rapport sera refusé comme n'importe quel contrôle, mais ça sera un constat d'huissier sur la voie publique, ce sera exactement pareil. Hein, ce n'est pas... Donc ça, c'est l'article L121.8 du Code du travail, il faut le savoir. Bon, il faut connaître par cœur l'article 9 du Code civil qui dit que chacun a droit au respect de sa vie privée, mais également toute la jurisprudence, parce que qu'est-ce que c'est que la vie privée? Où ça commence? Où ça se termine? Est-ce qu'on peut communiquer une adresse? Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'on peut faire une enquête sur une maîtresse? Est-ce qu'on peut pas? Etc.
Est-ce qu'on peut prendre des photos? Est-ce qu'on peut pas?
Est-ce qu'on peut prendre des photos? Est-ce qu'on ne peut pas? Alors oui, sur la voie publique, vous pouvez prendre une photo. La seule chose, vous n'avez pas le droit de la diffuser. Donc vous marquez dans votre rapport que vous le conservez à la disposition des magistrats, ou bien vous donnez les photographies à l'avocat sous le sceau du secret, avec pour instruction de ne les communiquer qu'aux magistrats. Dans ces cas-là, il y a deux arrêts de cour d'appel qui confirment qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée. Donc tout ça, il faut le savoir. Ça ne s'invente pas. Et ça ne s'apprend pas sur le terrain. Ça s'apprend par des connaissances juridiques qui ne peuvent s'acquérir que par le biais d'une formation, qu'elle soit publique ou privée.
Alors il était évoqué dans le documentaire la corruption. La corruption ou l'achat de Monsieur Torino disait « Moi, j'ai intérêt à inviter un certain nombre de personnes au crayon si je veux faire des affaires. » Comment est-ce que vous apprenez à de jeunes détectives à gérer ce genre de choses? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça vous est arrivé, vous, qu'on vous propose avoir un type d'affaires si en échange j'ai une enveloppe, si en échange j'ai des invitations? Est-ce que ça existe toujours? J'imagine que
non,
oui.
Non, moi, on ne me l'a pas proposé. On m'a simplement... Non, on ne m'a pas proposé du tout ce genre de... On m'a simplement signalé, un confrère parisien m'a signalé qu'effectivement, il venait de perdre deux grandes entreprises, l'une dans le domaine de l'assurance et l'autre dans le domaine immobilier, parce que les intermédiaires, c'est-à-dire les décideurs, ceux qui lui donnaient les affaires, voulaient des bachiches, et qu'il a refusé d'en donner. Bon, il a perdu les deux clients. Ils sont adressés à une autre agence qui, je suppose, leur a donné satisfaction.
C'est le monde des détectives, ça aussi, Christophe Deloironnet, quand même, avec des contrastes très forts entre un appel à l'angélisme et puis à vouloir le bien, et puis le monde réel, enfin le monde de l'entreprise, le monde de l'argent, où de toute façon la corruption est partout.
Un détective a des problèmes avec ses clients, là vous évoquez le cas de la corruption, mais il peut y avoir d'autres problèmes avec les clients, c'est que sait-on vraiment qui est le client ? Quelqu'un, vous êtes détective, quelqu'un vient vous voir, vous dit voilà, je suis un tel, je vous demande de surveiller telle personne, j'ai telle relation, souscrit tel contrat avec elle, ainsi de suite. Mais au fond, derrière cette personne qui présente bien tout ça, qui vient à votre cabinet, ça peut être, je sais pas, enfin, il y a des détectives qui m'ont raconté qu'ils s'étaient aperçus, au bout du compte, que c'était une secte qui leur demandait d'enquêter sur quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui a des intentions mauvaises, mais ça, c'est très difficile à savoir. Alors, beaucoup de détectives prétendent que le tout début d'enquête consiste à enquêter sur le client. J'y crois pas du tout. D'ailleurs, ça serait
qu'à
moitié.
Ah si, je ne suis pas d'accord avec vous.
Dans la profession, enfin, on on fait ce qu'on appelle ouvrir un dossier d'ouverture et de constitution de dossier, l'article, suivant les articles 1984 à 2010, donc que vous avez sorti dans votre livre, où on a l'identité de la personne. Il est évident que tout détective vérifie à qui il a affaire. Et il arrive qu'il y ait quelques problèmes. On parle souvent depuis tout à l'heure, je crois, des quelques exceptions. C'est sûr que ça intéresse vos auditeurs et je veux dire, ça fait vendre du papier, mais je veux dire, dans la réalité, il faut reconnaître que les cas sont pas très nombreux. Les détectives habituellement font remplir un procès-verbal d'ouverture et de constitution de dossier et je pense qu'ils vérifient et qu'il n'y a pas de problème.
Je vais vous donner très brièvement une anecdote très rapide. La semaine dernière, un client m'a téléphoné, enfin quelqu'un qui se faisait pas, en tout cas qui se disait client, et voulait une enquête sur la solvabilité d'une personne. Il voulait connaître sa profession, etc. Je lui ai demandé pourquoi, monsieur. Il me dit, il me doit de l'argent. Combien il vous doit? Il me doit tant. Je dis, d'accord, est-ce que vous avez un jugement? Oui, oui, bien sûr, j'ai un jugement. Quand je lui ai demandé le jugement, il m'a dit, non, ça c'est personnel, je ne vous le communiquerai pas. Mais je lui ai dit, monsieur, je suis désolé, si vous ne me communiquez pas la motivation et si vous ne m'apportez pas la preuve de la légitimité des investigations, je ne les ferai pas, adressez-vous ailleurs. Voilà, j'ai refusé un client la semaine dernière, il y a quelques jours.
Oui, et de plus, le détective a le droit d'arrêter une enquête tout de suite s'il s'aperçoit que les informations qui lui ont été
données sont fausses ou tronquées.
Sont complètement fausses ou tronquées. Donc
oui.
Oui,
je ne veux pas ergoter, polémiquer. Il est arrivé que des détectives se fassent savoir. Oui, enfin, certains l'ont reconnu auprès de moi. Parce que vous ne pouvez enquêter sur votre client que dans une certaine mesure. Et quelqu'un qui se débrouillerait très bien, qui serait subtil, ce serait sans doute...
Bien sûr. D'où la nécessité qui manque dans la loi de l'obligation d'un mandat écrit comportant... alors, on le fait, mais on le fait... on le fait déontologiquement, on n'a aucune obligation à le faire. Il faudrait que la loi prévoie l'obligation de créer un mandat écrit avec la justification de l'identité de la personne.
Et alors, est-ce que vous allez acheter du matériel à Security Action Store chez Monsieur Baril? Est-ce que ça existe toujours, les gadgets liés aux détectives?
Est-ce que vous me demandez, en parlant de Baril, c'est explosif là.
Non, mais le problème, c'est que je crois que là, on est dans la caricature du détective. Le détective utilise du matériel. On peut parler des balises par satellite ou ce qu'on appelle les matériels de contre-mesure pour faire de la détection. Mais je veux dire, c'est du matériel tout à fait classique. C'est des outils. Donc, pour exercer son métier, le détective a besoin d'outils. Et ces outils sont là. Tout le monde peut les acheter. Je veux dire, il ne s'agit pas d'outils spéciaux, de services secrets, choses comme ça.
On appelle ça de la contre-mesure électronique.
La contre-mesure électronique, c'est le juste mot.
Mais se poser la question, Christophe Deloire vous l'a posé tout à l'heure, donc les dites balises, qu'on poserait sous une voiture, on a le droit de le faire, la personne peut se retourner contre vous, c'est...
Non, alors, vous savez, vous utilisez déjà des balises sans le savoir quand vous faites de la randonnée, c'est ce qu'on appelle le GPS quand on va se promener. Et je veux dire, c'est déjà, c'est connu de tout le monde. Donc le problème des balises, c'est un outil pour faire une filature qu'on emploie sous certaines conditions, comme la prise de vue photo, et d'une certaine façon, tout à fait légalement.
Oui, mais bon, enfin, je vois beaucoup de films. Je lis beaucoup de romans, j'imagine vous aussi, et on a toujours l'impression de justement pénétrer dans ces informations qu'on ne pourrait pas avoir autrement, que vous utilisez des moyens bizarres. Vous évoquiez l'affaire de Tours tout à l'heure, où des fichiers ont été pillés.
Oui, c'était un détective important, enfin qui en tout cas gagnait bien sa vie, qui avait réussi à pénétrer un grand nombre de fichiers publics par une astuce assez simple. Il appelait ses administrations, il se faisait passer... Alors, pas pour un fonctionnaire de police, mais pour quelqu'un de l'EDF ou des PTT, et demandait les codes secrets. Et puis, il le faisait si bien que les salariés, les fonctionnaires au bout du fil, les lui donnaient. Et donc, il avait comme ça, il pouvait accéder à plein de fichiers de sécurité sociale, de choses comme ça. Alors, il y a eu toute une procédure judiciaire, d'ailleurs, qui a abouti à quasiment rien, parce que la qualification juridique de ces faits-là était très difficile. Mais ça pose la question au fond de la prestation du détective. Et c'est une chose, à mon avis, difficile à cerner, c'est qu'est-ce que vend le détective? Quelle est sa plus-value? Alors il y a des choses qui sont assez simples. Une filature, voilà, il vend,
une technique,
vous vend la
une
connaissance
compétence.
De où va la personne.
Une compétence du temps.
Mais le détective vend aussi certaines subtilités, c'est-à-dire il connaît telle base de données que ne connaît pas grand public. Tout ça est un peu en train de disparaître, enfin de rendre plus difficile les choses avec Internet, avec la diffusion de l'information à tout le monde. Mais jusqu'à présent, il y avait des services sur Minitel. Le détective, au fond, vendait aux clients sa connaissance des services Minitel qui, par ailleurs, pour beaucoup, étaient accessibles à tout le monde. Mais le client ne le sait pas nécessairement. Le détective vend parfois des informations qui ont un caractère public mais secret, c'est-à-dire par exemple des immatriculations de plaques automobiles, ainsi de suite. Alors là, il faut faire appel à des amis dans les administrations ou appel à des sous-traitants qui eux-mêmes ont des amis dans les administrations. C'est d'ailleurs juridiquement parfois plus précautionneux. Pour reparler de la loi... La profession donc est qualifiée de libérale, et c'est un sujet important, parce qu'un précédent projet de loi, celui que vous évoquiez, M. Conversano, tout à l'heure, qui avait été déposé sous le gouvernement Juppé au Sénat, évoquait le fait que la profession de détective serait une profession à caractère commercial. Et donc, l'information serait seulement un produit. Alors là, je pense que c'est préférable, ce caractère.
Il y avait des dérives, effectivement.
Libéral, oui. La prestation vendue par un détective n'est pas un pur produit. C'est pas comme vendre des bananes.
Donc au fond, qu'est-ce que vous vendez, Christian Borlich, quand vous proposez vos compétences de détective ?
La profession d'enquêteur privé ou de détective, comme vous voulez, a en fait pour objet de rechercher et d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Voilà la définition que l'on pourrait donner à notre activité professionnelle, même si ce n'est pas celle qui est donnée par la loi. On nous confond, et peut-être Christophe Deloire parlait tout à l'heure que l'administration ne souhaitait pas trop nous réglementer, peut-être y avait-il à notre égard une certaine jalousie. Nous ne pouvons absolument pas être confondus avec les services officiels de police et de gendarmerie, puisque l'essence de notre profession est dans le domaine civil et commercial, c'est-à-dire des domaines dans lesquels la police et la gendarmerie n'ont pas compétence, sauf très très rares exceptions, dans des lieux très éloignés des territoire d'outre-mer où il n'existe même pas d'huissier, et auquel cas, dans ces cas très précis, les gendarmes en short vont déposer les actes d'huissier. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare. Donc, notre rôle consiste à rechercher des preuves lorsqu'il y a, ou qu'il peut y avoir, risque d'un litige, ce qu'on appelle en droit in futurum, d'un litige à venir. Voilà.
Est-ce que vous rêvez de devenir spécialiste en contre-enquête ? Est-ce que c'est le grand territoire d'avenir des détectives ?
Non, la contre-enquête existe dans le domaine pénal. Quand on parle de contre-enquête, ça peut être dans d'autres domaines que le domaine pénal, même si je crois que Christian Borlich n'est pas d'accord avec la contre-enquête pénale. Les détectives font souvent des contre-enquêtes. En fait, dans la définition qui a été donnée tout à l'heure, moi je rajouterais que chaque fois qu'un citoyen estime subir un préjudice, c'est-à-dire que peut-être qu'on l'a condamné à tort, ce citoyen recherche des éléments de preuve et fait appel aux détectives. En France, on fait appel aux détectives. Je veux dire, on pense aux détectives, c'est la dernière roue de la charrette, parce que chez les anglo-saxons, on a des détectives chez les avocats, les avocats font appel aux détectives dans la prévention. Les avocats font de la prévention chez les anglo-saxons et font souvent appel aux détectives. Nous, en France, on fait appel à nous au dernier moment, quand il n'y a plus de recours, on est le dernier recours, comme dit un confrère, du citoyen. Et on arrive donc avec des difficultés, parce que souvent le temps est passé, et pour cristalliser la preuve, ça devient difficile. C'est pour ça, je vais rebondir un peu ou recentrer sur la formation. Et je vais faire court. On parlait tout à l'heure des fichiers publics qui étaient un peu par les anciens transgressés. Aujourd'hui, il y a des formations, il y a un savoir-faire. On peut faire ces mêmes choses sans aller appeler un fonctionnaire
sans
de police,
sans
l'aide dans la légalité. Et c'est pour ça qu'on a mis une formation en place.
Dans cette mise à nu du métier de détective par les détectives eux-mêmes. J'imagine que comme moi, les auditeurs restent un peu perplexes. Le côté Dr. Jekyll, Mr. Hyde, on en a quand même encore un petit peu besoin. Je vous remercie en tout cas beaucoup, Christophe Deloire, Christian Borlich et Yves Conversano, d'avoir témoigné. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site du Vif du Sujet @radiofrance.com, y consulter une bibliographie. Merci à Christine Getsch pour la bibliographie. À l'antenne, Thomas Coudreuse et Jean-Frédéric. Réalisation, François Test. Alors à la semaine prochaine pour le vif du sujet, le dossier de la séquestrée de Poitiers. Et tout de suite, musique espion, j'imagine, avec Yvan Amar.
Musique espion, mais pourquoi pas. Merci au vif du sujet et allons espionner tout de suite de façon un peu agitée.